Après la chute des géants et l'hiver du monde, la grande aventure du XXe siècle s'achève. Découvrez Aux portes de l'éternité, le roman événement de Ken Follett. Tandis que le monde plonge dans la guerre froide, cinq familles se déchirent, s'aiment et sont emportées dans le tumulte de l'histoire. De la lutte pour les droits civiques à la chute du mur de Berlin, de la guerre du Vietnam à la perestroïka, ces révolutions mèneront-elles à l'apocalypse ou aux portes de l'éternité ? Aux portes de l'éternité, une saga exceptionnelle signée Ken Follett aux éditions Robert Laffont.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Jean-Luc, 43 ans, de Soultz dans le Haut-Rhin, a suggéré à Franck Ferrand le thème de son émission d'aujourd'hui, les Mayas. Une belle exposition au musée du Quai Branly leur est consacrée jusqu'au 8 février. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. Voilà une belle idée de visite, Maya, révélation d'un temps sans fin, donc au musée du Quai Branly. En ce début d'émission, je vais vous livrer un souvenir très personnel, Céline. Figurez-vous qu'indirectement, sont un peu les Mayas qui m'ont donné envie d'apprendre l'histoire. Il y avait autrefois à la télé une émission qui s'appelait La tête et les jambes avec Pierre Belmar. Je sais pas si, non, vous pouvez pas vous rappeler ça, vous. Je me souviens en tout cas d'un numéro consacré aux Mayas. Le candidat savait absolument tout de cette civilisation, jusque dans les plus petits détails. Et moi, je me revois tout enfant complètement éberlué par ce savoir immense, tellement précis. Et du coup, lorsqu'on me demandait par la suite ce que je voulais faire plus tard, je disais historien des Mayas. Alors j'ai un petit peu bifurqué depuis, mais puisque j'ai bifurqué, je me confie au grand spécialiste du sujet. Et c'est pourquoi nous avons invité aujourd'hui Dominique Michelet du CNRS.
Et puis tout à l'heure, un peu avant 15h, vous répondrez à la question de Quentin. Il l'a posée via la page Facebook de l'émission. Je cite Quentin, « J'habite à Bruxelles et ma culture belge a des lacunes sur l'histoire de France et notamment sur les changements de république. Comment est-on passé d'une république à une autre ?»
Et bien, on va tâcher de donner un petit cours accéléré de rattrapage à Quentin. Pour le moment, l'heure est venue de nous plonger au cœur d'une des civilisations les plus fascinantes de l'histoire.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Être une expérience bien forte, un moment bien peu oubliable que celui où pour la première fois au milieu de la forêt mexicaine, vous tombez sur les pyramides escarpées d'une ancienne cité maya. Comme le legs, comme le message de pierre de gens qui appartenaient à une civilisation très avancée et ont bâti, ont sculpté, ont pensé cela il y a des siècles. Car la civilisation dont nous parlons aujourd'hui aura duré, sous plusieurs formes, pendant au moins 20 siècles, d'environ 1000 avant notre ère à environ 1000 après. L'âge d'or des Mayas paraît se situer entre 250 et 950 de notre ère, c'est-à-dire ce qui correspond chez nous à la fin de l'Antiquité et au temps reculé du Haut Moyen-Âge. Nous parlions l'autre jour de l'impératrice Théodora de Byzance, et bien dites-vous qu'au même moment, à l'époque où sur Byzance régnait Théodora, nous avions de l'autre côté de l'Atlantique, une civilisation très brillante, celle des Mayas. Que les Mayas aient alors pratiqué une écriture sophistiquée sous forme de hiéroglyphes, qu'ils aient poussé loin les méthodes de calcul et les mathématiques, qu'ils aient inventé un calendrier solaire très raffiné, etc. Nous le savons tous, plus ou moins. Mais j'ai envie de dire, et quoi encore ? Le ministre mexicain de la Culture écrivait il y a quelques jours « Le dynamisme des anciens Mayas fut tel, leurs avancées dans les domaines de l'esprit et de l'intelligence furent si originales qu'encore de nos jours, la marque de cette civilisation, féconde en bâtisseurs et en créateurs, s'impose à nous comme un des sommets de l'aventure humaine. C'est une tâche à la fois ardue et fascinante, ajoute-t-il, que de comprendre la complexité de l'antique civilisation Maya. Heureusement que nous avons pour nous aider dans cette tâche ardue, compliquée, nous dit le ministre mexicain, que nous avons un grand spécialiste avec nous aujourd'hui. Alors, en tant que civilisation, les Mayas n'ont commencé à vraiment passionner les Occidentaux que nous sommes, disons-le, qu'au XIXe siècle. Le président du musée du Quai Branly, Stéphane Martin, écrit « Des premiers sites dévoilés au XIXe siècle par l'explorateur John Lloyd Stephens, jusqu'à la récente découverte de Shaktoun, on en parlera évidemment dans un instant, ça c'était en 2008-2009, les cités Mayas ne cessent de nous fasciner. Ces cités continuent de nous livrer les secrets de cette grande civilisation, le peuple maya possède l'une des cultures les plus anciennes et spectaculaires de Mésoamérique. Riche d'un patrimoine millénaire, les mayas se distinguent par leur grande créativité, leur recherche esthétique, mais aussi par leur prouesse technique. Évidemment, ce qui nous passionne le plus, ce qui nous interpelle, c'est la fin forcément mystérieuse et longtemps énigmatique de cette civilisation. On parlait jusqu'à ces derniers temps d'une disparition soudaine. En vérité, il semblerait que cette disparition s'étale sur au moins un siècle. Dominique Michelet parle même de deux siècles, il nous le dira dans un instant. Il s'agit d'un déclin naturel et non pas d'un effondrement ou d'une chute brutale de la civilisation, ce qui fait que l'hypothèse catastrophique de l'effondrement ne tient pas en vérité. Aucun bâtiment, par exemple, ne montre la moindre trace de séisme violent. Du reste, on est sur des régions qui géologiquement sont tout à fait stables. François Baudet, que j'avais eu l'occasion de recevoir il y a quelques années, nous dit « On sait aussi qu'il ne faut pas rechercher la cause de cette chute dans une seule catastrophe comme un tremblement de terre, une épidémie ou un typhon, et que le phénomène ne peut être compris qu'en invoquant une pluralité de facteurs. » Ça, c'est vraiment une question qui est toujours très passionnante en histoire. Vous savez, le grand lecteur de Toynbee que je suis est toujours passionné par la fin des civilisations. Comment meurt-elle? Pourquoi est-ce qu'il y a une cause, est-ce qu'il y a tout un faisceau? C'est très intéressant et dans le cas des Mayas, nous sommes en face de ce qu'on pourrait appeler un cas d'école. Arthur Desmarais nous dit « Les spécialistes ne sont jamais tombés d'accord, ni sur la nature même du déclin de la civilisation maya, ni sur ses causes. Cette absence de consensus est partiellement due aux lacunes de la documentation archéologique pour la période des 9e et 10e siècles. Les Européens, les Espagnols ne sont arrivés, vous le savez évidemment, au tournant du 16e siècle. Ce sont des conquérants, bien entendu, qui s'embarrassent assez peu des civilisations qu'ils croisent. Or, en l'occurrence, ils vont croiser des indigènes sur ces régions qui habitent dans des huttes au milieu de ce qui paraît être les vestiges d'une fascinante civilisation, avec de grandes cités-états qui ne sont plus à ce moment-là que des tas de ruines. Je parle de cités-états, un peu comme lorsque nous parlons de la Grèce antique. On va voir ce qu'elles sont ces cités, à quoi elles correspondaient ces grandes villes. On découvre assez vite donc cette écriture assez mystérieuse, énigmatique, ce système de calendrier. On peut dire que la civilisation maya apparaît d'emblée comme quelque chose de très sophistiqué, avec une imprégnation religieuse très grande, et puis ces fameux sacrifices humains qui vont faire fantasmer les Européens, on peut dire jusqu'à nos jours, un récent film l'a prouvé du reste. Le territoire de la civilisation est assez vaste, c'est à peu près un tout petit peu plus petit que le territoire de la France actuelle, c'est 400 000 km² qui se répartissent sur les États comme le Guatemala, le Belize, une partie donc du Mexique bien entendu, une partie du Salvador et une autre du Honduras. Donc évidemment ça ne facilite pas, il faut bien comprendre que ça ne facilite pas les recherches et les travaux puisque vous êtes sur différents états bien entendu aujourd'hui. Avec des régions climatiques assez variées entre les basses terres du sud et les basses terres du nord avec un climat sec dépourvu de cours d'eau au nord et puis quelque chose de beaucoup plus humide, beaucoup plus tropical si l'on veut dans le sud avec des sols argileux. La question de l'eau va se poser, bien entendu, elle est tout à fait essentielle et sans doute joue-t-elle un rôle dans les explications qu'on peut apporter à la chute de cette civilisation, à son déclin, lent, très lent, plus ramassé. C'est ce que nous allons essayer de voir dans un instant.
Originale d'Apocalypto composée par James Horner. Dans un instant sur Europe 1, nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à votre récit sur la fin de la civilisation maya.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Retour avec vous, Franck Ferrand, à la fin de l'une des civilisations les plus étudiées, la civilisation maya.
Les économistes occidentaux ont pour coutume de dire aujourd'hui que tout ce qui ne se développe pas finit par entrer en récession et par diminuer, par essence. C'est sans doute ce qu'on peut constater dans un certain nombre des fameuses cités-états de l'ancienne civilisation maya. Si vous regardez les travaux de construction qui avaient été engagés à Chichen Itza, par exemple au Yucatan, vous observez que d'un seul coup, à un certain moment, le comportement se modifie et qu'on va arrêter des constructions. Certaines sont même interrompues en cours. Alors, à quoi attribuer cette modification des comportements qui aboutira probablement à terme à la disparition de la civilisation? D'abord, on a avancé des facteurs climatiques, bien entendu. Il y a eu plusieurs périodes de sécheresse au moment du déclin de la civilisation. Ça, on s'en rend tout à fait compte lorsqu'on analyse les terres. On pourrait établir un rapport plausible entre la sécheresse et la disparition, estiment des chercheurs qui ont travaillé, en l'occurrence à Potsdam, dans le centre de recherche géologique. La sécheresse est survenue de manière si soudaine, semble-t-il, que la population aurait pu être prise au dépourvu, avec des conséquences évidemment immédiates sur les cultures. On a observé un appauvrissement progressif des terres. Voilà ce que nous dit le professeur de géographie Jean-Noël Salomon dans les Cahiers d'Outre-mer, je le cite. Les sols tropicaux présentent d'une façon générale de très graves inconvénients. L'humus y est en voie de minéralisation très rapide. Les sels ils sont lessivés et en l'absence de pente, ces sols peuvent demeurer saturés. Ce qui aurait pu expliquer la nécessité d'une extension en même temps et de développer les territoires. 15 hectares et une cinquantaine de jours de travail sont nécessaires aux paysans pour nourrir une famille de 10 personnes pendant un an, estime le même géographe à propos de cette civilisation maya. Les mayas ont mis au point des systèmes de culture intensifs pour essayer de compenser ce phénomène, bien entendu. Des systèmes qui néanmoins trouvent leurs limites, on verra lesquelles. Dans un instant. Vous connaissez bien sûr les grandes cultures de l'Amérique centrale, mais en l'occurrence, c'est la production de maïs qui était absolument essentielle pour nourrir, pour alimenter la population, pour subvenir à ses besoins. Et on a bien l'impression que ces cultures de maïs deviennent peu à peu insuffisantes. Donc ça, c'est la question. Donc un problème, voyez, climatique avec ces sécheresses qui surviennent assez brusquement, un problème général de culture et des terres qui ne sont peut-être pas satisfaites. Un problème d'eau aussi. Je vous le disais tout à l'heure, les Mayas avaient organisé l'approvisionnement en eau, dans le Yucatan, à Chichen Itza. Les nappes phréatiques se trouvent cependant extrêmement profondes. Elles sont à quelque 70 mètres de profondeur. Il n'y a pas ou peu d'eau de ruissellement, ce qui veut dire qu'il faut installer des citernes, il faut monter tout un système hydraulique, bien entendu. Le sol du Yucatan est poreux. On peut dire que systématiquement, il absorbe la plupart des pluies. L'essentiel de ce qui tombe dans une année est absorbé par le sol. Il faut donc aller chercher ensuite cette eau dans les sous-sols. C'est Tiken Pap, qui est un archéologue de l'université de Bonn, qui disait dans un documentaire que je voyais récemment à la télévision, « Cette situation signifiait un grand danger pour la population en cas de sécheresse. La base même de leur survie n'était plus assurée au bout d'un laps de temps relativement court. » Autre problème, au-delà des considérations climatiques et des considérations hydrographiques, un problème de déforestation. Alors ça, on l'a, ça n'est pas du tout spécifique à l'Amérique centrale et aux Mayas, mais on l'observe, en l'occurrence, une déforestation qui s'accélère. Il ne faut pas oublier qu'on utilisait par exemple beaucoup les fours à chaux, notamment la chaux recouvrait les monuments. Et ça, évidemment, ces fours consommaient une grande quantité de bois. Petit à petit aussi, pour des raisons d'extension de l'agriculture. Vous voyez que tout est lié, évidemment, tous ces phénomènes sont liés. Plus vous étendez les cultures, évidemment, plus vous avez tendance à réduire la forêt, qui même, dans le cas présent, se réduit peu à peu comme une peau de chagrin. Les zones marécageuses vont être envahies petit à petit par l'argile qui va descendre des collines, peu à peu déboisée. Et oui, parce que cette argile n'est plus retenue sur les collines, donc ça va envahir peu à peu les zones marécageuses. Tout ça aggravé, bien entendu, par le phénomène de sécheresse. C'est pour ça que tous ces phénomènes sont liés, évidemment. Les chercheurs ont découvert que les précipitations dans la péninsule du Yucatan, où les coupes d'arbres étaient vraiment particulièrement nombreuses, ces précipitations vont chuter de 15% au moment du pic de déforestation. déforestation. Le manque de nourriture va conduire donc à une certaine malnutrition, à des épidémies, à des famines et probablement à de la violence, même si là encore il est assez difficile d'en retrouver toutes les traces. Le système d'organisation des Mayas est un système complexe avec des élites composées de chefs héréditaires et puis un peuple d'agriculture, tout ça étant très hiérarchisé. En haut de la hiérarchie, vous avez le vrai homme, on verra qui il était, qui disposait du pouvoir absolu, c'est un peu le pharaon local, si l'on peut dire. Il est le chef de l'armée, de l'administration, des prêtres, ce qui joue évidemment un rôle absolument essentiel. Il possède du jade, des pierres dures, des plumes de Quetzal, enfin tout ce qu'il peut y avoir de plus précieux dans cette civilisation. Et puis, sous lui, si je puis dire, se déploie tout un système très hiérarchisé. Il est possible que cette hiérarchie très tendue, très rigide, n'ait pas été à même de répondre à un certain nombre de défis posés par le climat.
Je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez réagir à l'émission et nous envoyer vos messages par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag SCDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la fin de la civilisation maya.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la fin de la civilisation maya.
Oui Céline, alors nous avons vu un problème de sécheresse, un manque d'eau, des difficultés à nourrir une population et puis une certaine impuissance des élites face à ce que l'on peut considérer sans doute comme des révoltes. Pour conjurer le sort, il semblerait qu'on ait multiplié les sacrifices. Il s'agissait de se concilier les dieux, bien entendu, notamment le fameux dieu de la pluie qui occupe une place très importante dans ce panthéon maya et pour cause, puisqu'il semblerait bien que ce soit la base même, le problème central de cette civilisation. La guerre va permettre de constituer des prisonniers dont certains deviennent des sacrifiés. On peut dire que, d'une façon générale, la société s'organise de plus en plus, se tourne de plus en plus vers la guerre. Une guerre qui est dominée par des considérations, mais alors là, encore une fois, on trouve ça dans toutes les grandes civilisations antiques, par des considérations religieuses, notamment les calculs astronomiques servent à déterminer le moment idéal des offensives. Les paysans se sont-ils retournés contre l'élite mexicaine? C'est une des questions que j'aimerais poser à notre invité, bien entendu, puisque pour autant qu'on le sache, vous avez bien compris qu'un grand nombre des éléments dont nous disposons sont des éléments archéologiques. C'est donc toujours très difficile d'établir une histoire à partir de l'archéologie, mais on peut se poser la question, est-ce qu'il y a eu comme ça de grandes révoltes populaires? Est-ce que les paysans, en quelque sorte, se sont ligués, se sont montés, se sont révoltés contre la fameuse élite dont je vous parlais tout à l'heure, assez rigide, avec ce système hiérarchique un peu pesant? Ou bien est-ce que les paysans se sont, en quelque sorte, est-ce que la société s'est délitée? Est-ce que les paysans ont gagné une forme d'autonomie pour essayer de survivre de façon plus efficace? Il semblerait en tout cas qu'un certain nombre de monuments, de statues, y compris même de statues sacrées, aient été mutilés. Ça, ce sont bien des traces de violence. D'où vient-elle cette violence? Eh bien, c'est ce qu'il faut arriver à comprendre. On situe le début du déclin, je vous l'ai dit, au milieu du 8e siècle. Le premier effondrement identifié, étudié véritablement, se situe dans le Petén occidental, en particulier dans la région de Petex-Batoun. On verra pourquoi dans un instant. En 761, des vassaux de la cité de Tamarindito, c'est pratique ce calendrier maya parce que ça permet quand même de rétablir un certain nombre de dates, des vassaux de cette cité de Tamarindito vont se révolter contre Dos Pilas, qui est la ville dominant la région. Ils capturent le roi, les habitants arrêtent à ce moment-là toute construction, leur production artistique est réduite quasiment à néant, on les voit qui se barricadent dans la ville, ils vont ériger un système de défense très élaboré, un mur grossier d'un mètre et demi d'épaisseur avec des pierres qui ont été prises à un certain nombre de monuments locaux, notamment à des pyramides, et à l'extérieur de ce mur, des pierres qui sont érigées pour permettre de transformer la ville en une sorte de la surélever en quelque sorte, hein, d'en faire une sorte d'îlot peut-être pour résister aux grosses pluies. Les ressources se raréfient, les guerres deviennent de plus en plus difficiles, les hiéroglyphes nous parlent de 100 batailles contre 28 villes. À noter que les tailleurs de pierres un jour vont cesser de gravés. Alors à ce moment-là, il y avait les cases hein, qui étaient là, toutes belles, toutes prêtes pour accueillir en quelque sorte des messages qui n'arriveront jamais et qui nous font aujourd'hui cruellement défaut. Visiblement, Il semblerait qu'il y ait eu donc des conflits importants. L'élite aurait fini par fuir. Une partie de la population semble être restée ici. On parle toujours de cette révolte contre Dos Pilas. Des habitations ont été aménagées dans les pièces d'apparat. Ça, quand on commence à habiter les temples et les palais, ça n'est pas très bon signe pour la civilisation en question. Et au milieu du IXe siècle, on va assister à un fort mouvement migratoire, des migrations du centre vers le nord, vers le Yucatan, et ces migrations étant de plus en plus fortes. Ce qui veut dire que la population dans les villes de cette région devient tout simplement beaucoup trop nombreuse. Alors là, il y a sans doute un problème d'alimentation qui devient absolument essentiel. À la fin du IXe siècle, à la toute fin du IXe siècle, on peut dire que la zone est à peu près abandonnée, hein, cette zone dont je vous parlais. Tikal a perdu par exemple 90% de sa population. La dernière grande cité au Yucatan, c'est Mayapan, et elle-même sera abandonnée en 1450. Entre parenthèses, il y a là comme une ironie de l'histoire. C'est assez extraordinaire d'imaginer que cette civilisation tire sa révérence, si j'ose dire, avant qu'une autre civilisation ne vienne saper ses fondements, ce qui serait arrivé tôt ou tard avec les invasions occidentales, bien entendu. Lorsque les conquistadors débarquent dans cette Amérique centrale, les Mayas ne sont déjà plus, ils ne l'auront pas fait le plaisir, si je puis dire, de les laisser les détruire. Bonjour Dominique Michelet, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. On peut dire que pour vous, les Mayas n'ont pas de secret. Quoique, je crois qu'ils en conservent quand même pour un certain nombre de spécialistes dans votre genre.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Au cœur de l'histoire, vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, des Mayas, avec votre invité Dominique Michelet, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du laboratoire archéologique des Amériques.
Alors Dominique Michelet, avant d'entrer dans le détail de cette civilisation, d'aller un peu à la rencontre de ces Mayas, j'aimerais que nous revenions bien sûr sur la fin, sur le déclin, sur la chute et sur ce que je racontais à la toute fin. Là je suis entré dans un scénario qui relève peut-être un peu de l'imagination.
Non, simplement un détail, mais c'est un détail essentiel à corriger, c'est que les Mayas existaient parfaitement quand les Espagnols sont arrivés, et il y a eu une véritable entreprise de christianisation, bien entendu, de colonisation très dure.
Le peuple existait.
Tout à fait.
Mais c'est la civilisation qui s'était délitée.
Il y avait encore des chefs locaux. Enfin, oui. On a quelques documents sur la situation du nord de la péninsule du Yucatan au XVIe siècle. C'était variable selon les régions, mais il y avait 16 provinces avec des gouvernements différents. Ça n'était plus effectivement une production monumentale, mais il y avait tout à fait un système qui fonctionnait, qui variait selon les lieux. Donc on a une grosse population, et ce que les Mayas subissent avec la colonisation, c'est totalement dramatique. Et ils y ont survécu aussi, de même qu'ils ont survécu aux indépendances, et qu'aujourd'hui ils sont facilement 8 millions.
Alors donc, justement, aujourd'hui, ces Mayas que vous rencontrez, est-ce qu'ils ont conservé quelque chose de leurs ancêtres et de la brillante civilisation dont ils sont les héritiers ?
C'est un peuple qui a sa façon de vivre et qui continue effectivement à pratiquer, à se référer à certaines idées qui viennent de très très loin dans le temps et qui s'adaptent au monde contemporain aussi. On a aujourd'hui des rituels mayas qui ont un fond traditionnel mais incluent des éléments de la modernité absolue. Par exemple, dans le rituel qui pourrait être l'équivalent d'un baptême, au lieu de donner un outil d'agriculteur à un petit garçon, on peut lui mettre dans les mains un bébé qui vient de naître, un téléphone portable, puisque on est dans la modernité et que les téléphones portables existent. Donc, c'est une population qui continue à penser le monde à sa façon, réellement, mais en même temps est totalement perméable
intégré,
à ce qui se passe.
Bien sûr, absolument. Totalement intégré à la population, évidemment. Est-ce que les savoirs traditionnels, est-ce que la langue, est-ce que les modes de pensée sont utile et utilisé par les archéologues et par les historiens de cette civilisation?
Oui, obligatoirement. Enfin, nous n'avons affaire qu'à des restes matériels assez muets. Malgré tout, c'est nous qui essayons de les faire parler.
Mais cette population, est-ce qu'elle peut vous aider?
Elle peut parfaitement. Elle peut pas forcément commenter les trouvailles, mais elle peut avoir encore des comportements, ou des comportements qui remontent à l'époque coloniale et qui sont connus par des textes à ce moment-là, qui peuvent nous éclairer sur ce qu'on trouve tout à fait dans le registre archéologique.
Alors, la population maya existe toujours, d'une certaine manière. Lorsque les Espagnols débarquent au tournant du XVIe siècle, vous nous dites qu'il y avait encore quand même toute une structure, il y avait des provinces, il y avait des gouverneurs, etc. Mais la civilisation classique, elle, avait donc disparu. Comment et pourquoi? C'est ça la grande question, évidemment.
Bien entendu, oui. Donc, on est sur, vous l'avez dit en début, on est sur une très longue durée. Et le classique, c'est effectivement, en gros, de 250 jusque vers 950. Au moment où nous, qui observons les choses, voilà, bien sûr, oui, décidons que le classique s'arrête, il y a quand même une suite.
Aux alentours de l'an 1000, on va dire. Hein, c'est
et,
ça, hein.
Et dans la reconstitution que vous avez proposée, vous avez effectivement évoqué des choses postérieures, et il y a encore des grandes réalisations qui sont postérieures au classique. Vous avez mentionné Chichen Itza. Voilà, oui. Chichen Itza, son apogée, c'est à partir du Xe siècle jusqu'au XIIIe siècle. Donc là, on est bien après les classiques. Et puis Mayapan, la dernière grande cité, mais qui n'est pas la dernière en réalité, en tout cas le centre qui a eu une prétention hégémonique sur tout le nord de la péninsule, oui, Mayapan, ça disparaît en tant que cité et lieu de pouvoir vers 1450. Donc on a une histoire qui suit. Alors, le classique, effectivement, est distingué. Pourquoi ? Parce que le type d'organisation sociopolitique et économique qui se met en place à ce moment-là, sur fond bien entendu de croyances et de tout un arrière-plan idéologique, va amener à la production de toute une série de restes matériels, à commencer par les cités, bien entendu, toute l'architecture, mais énormément aussi d'objets de la vie quotidienne ou d'objets plus exceptionnels, qui nous sont restés et qui montrent d'une part l'extraordinaire richesse, la très grande habileté de tous les spécialistes qui, à ce moment-là, travaillent. Et tout ça est en réalité très lié au pouvoir politique, à tous ces dirigeants. Les dizaines de cités-États qui existent à ce moment-là sont en compétition parfois militaire, mais très souvent de prestige, et donc provoque des espèces de compétitions en matière de réalisation. Donc, on imagine très bien ça dans notre histoire d'ailleurs européenne. On a eu des périodes où des cités-États, pourrait-on dire, étaient en conflit les unes avec les autres et cherchaient à être plus glorieuses que les voisines.
Bien sûr, donc, et à atteindre une forme d'hégémonie, par
absolument.
Définition.
Alors, l'hégémonie, c'est peut-être pas justement quelque chose qui est très très maya, puisque on n'a pas beaucoup de... Dans l'histoire du classique, il n'y a que deux cités qui, à un moment donné, semble-t-il, conçu la possibilité de monter des hégémonies. En tout cas, ce ne sont pas des hégémonies territoriales. Il ne s'agissait pas de contrôler des territoires, il s'agissait de créer des réseaux d'alliés, grâce à quoi on avait un rôle supérieur à tous les autres. Alors, d'un côté guatémaltèque aujourd'hui, c'est Tikal, et au nord, et c'est du côté mexicain aujourd'hui, Calakmul. Ces deux grandes cités, effectivement, ont été en compétition l'une avec l'autre, à travers leur réseau d'alliances, et on peut parler d'une certaine tentative hégémonique de leur part et du coup du conflit entre elles, par alliés interposés d'ailleurs. Mais encore une fois, ça n'est pas pour la conquête des territoires. C'est plutôt pour assurer au roi de Calakmul d'un côté ou à la dynastie de Tikal de l'autre une prééminence sur les autres dynasties.
Est-ce qu'on observe dans chacune de ces cités-États une organisation sociale similaire ? Ou est-ce qu'elles ont chacune sa spécificité ?
Non, elles sont très proches les unes des autres. On a, par exemple, on a des titres, hein, des titulatures.
Qui sont les mêmes d'une,
qui
cité,
sont les
à
mêmes d'une
oui.
cité à l'autre. Donc on pense qu'effectivement, il n'y avait pas une grosse... Simplement, entre un très gros centre du type Calakmul et un petit site, mais qui prétendait être lui-même le centre du monde et indépendant, il y avait une affaire d'échelle. Donc, si vous voulez, la cour royale, dans un cas, pouvait être de quelques unités d'individus, et dans d'autres, c'était des centaines, voire des milliers d'individus. Donc, c'est une affaire d'échelle. Mais au niveau des structures même, on est sur le même modèle.
Je parlais de hiérarchie rigide. J'ai l'impression que les archéologues peu à peu reviennent sur cette idée qui était répandue il y a encore 50 ans.
On a du mal, à vrai dire, à décrypter complètement cette organisation. La terminologie qu'on a employée a beaucoup flotté. Par exemple, à un certain moment, on a quelques collègues qui nous ont parlé des classes moyennes mayas, ce qui me paraît totalement hors sujet. Enfin, on n'imagine pas un instant. En revanche, on a, bon, au sommet de la hiérarchie, on a une famille royale. Et ça, c'est une position à part, qui n'a même rien à voir avec toutes les élites qui sont autour.
Le vrai homme, c'est celui qui est accompli, en quelque sorte ?
Oui, absolument. Et c'est celui qui, en réalité, est le représentant unique d'une certaine façon, qui impose à sa propre communauté ses propres ancêtres, comme les ancêtres de tout le monde, et qui va dominer, mais de très haut, la totalité du système.
Il est entouré de prêtres, lui.
Il est entouré de prêtres et de gens qui ont des fonctions aussi
administratives,
plus civiles.
Militaires,
voilà,
oui,
absolument,
voilà.
Certainement. On a aussi, à mon avis, c'est quelque chose qu'il faut éviter, mais on a beaucoup utilisé, certains collègues, le terme d'essayer de définir ce qu'aurait pu être une bureaucratie maya. Là, réellement, on n'est pas dans des systèmes qui nous permettent de répondre positivement à cette hypothèse-là. On n'est pas dans les systèmes mésopotamiens, on n'a pas toutes les tablettes qui nous montre comment fonctionner administrativement. On a même l'impression qu'il y a assez peu d'administration. Et en particulier, cela se doit, je pense, au fait que la classe dirigeante et le chef suprême intervenaient assez peu dans les domaines économiques. Les domaines économiques fonctionnaient
pas. Et agricoles, puisque.
Et agricoles, bien entendu, fondamentalement agricoles, ou commerciaux, ou artisanaux, bien sûr aussi. Les dirigeants et le chef suprême, le roi, avait un rôle dans le maintien du monde. Donc. Mais son rôle, finalement, semble-t-il, était fondamentalement de type religieux. C'est-à-dire que pour assurer une bonne récolte, il faut faire les bons rituels au bon moment.
Et à partir du moment où les éléments ne répondent plus, c'est peut-être qu'on ne sait plus communiquer avec les dieux. Nous allons venir justement dans un instant à toutes ces considérations culturelles. Nous allons parler d'architecture. Nous allons aussi parler, bien sûr, vous n'y couperez pas, des sacrifices.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Maya qui est au cœur de l'histoire cet après-midi, vous nous en parlez Franck Ferrand, avec votre invité Dominique Michelet, directeur de recherche émérite au CNRS, membre du laboratoire archéologie des Amériques.
Il y a quelques années, on a beaucoup parlé de cette affaire de calendrier maya, puisqu'on nous annonçait là la fin du monde pour 2012, enfin bon, etc. Ces calendriers, et d'une façon plus générale, l'incroyable sophistication des mathématiques, de l'arithmétique maya, fascine aujourd'hui l'Occident. C'est peut-être le legs suprême de cette civilisation. Est-ce qu'on peut dire ça, Dominique Michelet ?
Oui, on peut certainement dire qu'il y avait des individus, et fatalement des populations autour d'eux, qui on avait une véritable passion pour la combinatoire des chiffres et l'arithmétique. On a retrouvé il y a quelques années, en dégageant une ruine, un mur stucqué qui avait gardé son stuc original, où il y a à la fois gravé et peint des tables astronomiques tracées comme ça. C'est absolument pas quelque chose de programmé, probablement par un prêtre qui faisait des calculs pour, par exemple, les lunaisons. Et c'est donc une espèce de graffiti sur un mur. Bon, il y avait certainement des dizaines et des centaines d'individus qui étaient habitués à réfléchir aux différents cycles. Et fondamentalement,
avec un savoir traditionnel très poussé. Hein,
oui, et ancien, et transmis. Et je pense que le fond de l'affaire était bien souvent de type plus arithmétique que véritablement astronomique. Les calculs astronomiques étaient corrects. Ils prévoyaient des éclipses très longtemps à l'avance. Mais probablement, ce qui était encore plus important, c'était la combinaison des nombres.
Si vous deviez nous présenter le panthéon des Mayas, quelle est leur religion ? À qui obéissent-ils ?
Alors, il faudrait distinguer, ça Claude-François Baudez avait beaucoup insisté là-dessus dans un de ses livres paru au début des années 2000, qui est discuté encore et qui ne fait pas l'unanimité, entre la période qui précède immédiatement la conquête, où là il y a eu des influences venues du haut plateau central, et quand les Espagnols arrivent, il y a vraiment des dieux avec, organisés dans un panthéon, comme notre antiquité classique, si vous voulez, et les périodes anciennes où on voit des entités, on voit des forces qui sont représentées parfois tout à fait de façon anthropomorphique et donc qu'on pourrait éventuellement appeler des dieux, mais il y a un petit doute là-dessus, il y a la conscience que le monde entier et tout élément de ce monde-là est doté d'un esprit, un animal est doté d'un esprit, un végétal est doté d'un esprit.
Une forme d'animisme.
Une forme d'animisme avec, bien entendu, une très forte hiérarchie à l'intérieur des différentes composantes du monde. Donc, l'homme qui lui-même est doté d'un esprit, et étant au sein de ce monde complètement parcouru, comme si c'était des ondes qui se croisaient, de ces autres esprits, a, dans la vie quotidienne, la nécessité de négocier en permanence avec toutes ces forces qui l'entourent.
Et donc c'est un monde magique d'une certaine manière.
Hein. D'une certaine façon, oui. Et effectivement, il y a eu des chamans, par exemple, et les chamans sont dans les sociétés des intermédiaires un peu spécialisés qui peuvent suppléer les déficiences des individus quand ceux-ci ne savent pas se débrouiller avec ce qui les entoure.
Nos auditeurs auront remarqué les prudences et les précautions oratoires que vous prenez, mais vous n'êtes pas le seul. Tous les spécialistes de cette civilisation maya agissent de même parce que on ne sait pas tout et notamment, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'on ne déchiffre pas leur écriture. C'est pas tout à fait le cas, puisqu'on peut la lire, mais on ne sait pas ce qu'on lit. C'est ça qui est embêtant.
Oui, c'est ça. Bon, on a fait des progrès considérables dans les chiffrements. On n'est pas loin de pouvoir transcrire à peu près 100% des inscriptions, sauf celles qui sont très effacées, bien entendu. Mais ça, c'est l'lot de toutes les épigraphies. Mais
Il existe, maintenant il s'enrichit
en permanence. Mais cette année, par exemple, dans le site où nous fouillons, il y a des inscriptions nouvelles qui sont sorties et qui nous ont montré des choses tout à fait exceptionnelles.
C'est quoi votre site, vous?
Moi, j'appartiens à un projet qui est donc un projet international mais franco-guatémaltèque et qui se passe sur le site de Nachtoun, au nord du Guatemala, pratiquement à la frontière, à la frontière du Mexique.
Vous avez fait des découvertes. Là, quand même important.
Alors à Nachtoun, oui, on travaille sur ce site qui est une capitale régionale et qui est justement à mi-chemin entre Calakmul et Tikal. Et on se posait la question de savoir comment ce site-là s'était débrouillé dans cette espèce d'opposition, de conflit larvé ou parfaitement déclaré entre les deux grands. Et on a trouvé cette année des éléments nouveaux intéressants par les inscriptions. Donc, inscriptions très dures à lire, qui nécessitent des technologies tout à fait particulières. Il y a eu des nuits entières d'enregistrement en photographie avec des lumières rasantes, des reconstitutions photogrammétriques des inscriptions, où on essaye de reconstituer ce qui... Alors, bon, donc, on lit à peu près 80-90% des inscriptions. Mais c'est pas parce que bien souvent on est capable de mettre un mot en face d'un signe qu'on comprend le sens de ce mot exactement.
Et encore moins du texte auquel il appartient.
Absolument, oui, oui. Il y a un certain nombre d'inscriptions et en particulier les inscriptions les plus simples. Là où il n'y a pas de contexte, là où il n'y a pas d'habillage, parfois nous pose des problèmes. Oui.
On peut donc espérer qu'un jour, les Mayas sortent de l'archéologie pour entrer dans l'histoire, si je puis dire, et qu'on pourra comprendre. Vous pensez qu'il y a des textes historiques qui nous apprendraient
Nos amis épigraphistes diraient tout de suite, on est déjà dans l'histoire.
On y est déjà,
Non, tout à fait. En ce qui concerne en particulier l'histoire dynastique et l'histoire politique, depuis les années... Le tout début, c'est dans les années 60, mais beaucoup dans les années 1980-90, on s'est mis à lire toutes ces histoires avec les successions, avec les mariages, avec les
un peu comme des généalogies bibliques d'une certaine manière.
Absolument.
Mais avec un défaut d'individualité, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des héros? Est-ce qu'on suit le parcours individuel de certains?
Bien sûr. Non, bien sûr. Il y a tous les sites ont eu des dirigeants qui ont eu plus ou moins de réussite. Et par exemple, Palenque, qui est un des sites les plus connus probablement, et les plus visités aussi, en tout cas par les Français. Le grand moment de l'histoire dynastique, c'est une histoire qui dure sur plus de 400 ans, hein, la même dynastie, c'est le règne de Pacal qui va durer juste dans le 7e siècle, depuis le début du 7e siècle jusqu'à sa mort en 683. Et Pacal est la référence pour ses successeurs. Et donc, on a beaucoup de ces histoires-là. Dans un autre site qui s'appelle Piedras Negras, qui est du côté guatémaltèque, lui, on sait très bien qu'il y a un certain nombre de rois qui ont eu des difficultés politiques et militaires, qui n'ont pas eu des règnes très brillants. Eh bien, les successeurs se réfèrent non pas à leurs prédécesseurs quand ça s'est mal passé, mais à deux ou trois prédécesseurs avant, ceux qui avaient eu du succès. Donc on a toute une histoire politique, et c'est de l'histoire, il n'y a pas de problème.
Nous avons tous à l'esprit les images, si je puis dire, de ces guerriers sacrifiés. Le sacrifice humain faisait partie des rites mayas.
Certainement, oui, tout à fait. Mais encore une fois, là, il faudrait peut-être ne pas exagérer. Les Mayas ne sont pas les Aztèques. Nous n'avons pas, dans cette civilisation, de sacrifices massifs. Au XVe siècle, chez les Aztèques, au milieu du XVe siècle, il y a une série d'années extrêmement mauvaises de récoltes, donc au centre, dans ce qui est Mexico à l'heure actuelle. Et là, on sait qu'on a sacrifié les gens par milliers.
Oui, là, c'était des hécatombes.
Bon,
oui.
Il s'agissait en même temps d'apaiser les forces sacrifiées, les dieux, pour leur demander de pouvoir éviter les famines à l'avenir. Et en même temps, on supprimait un certain nombre de bouches à nourrir, probablement. Chez les Mayas, rien de tel. Enfin, on a des sacrifices, mais ces sacrifices sont d'ailleurs pas toujours facilement évoqués. Enfin, il n'y a pas énormément d'images du sacrifice. Il y a beaucoup d'images de captifs, de guerriers faits prisonniers. Et leur sort, c'est évidemment le sacrifice, mais on parle de quelques individus à chaque fois.
Vous nous dites qu'il faut se méfier de l'image véhiculée par le célèbre film de Mel Gibson, Apocalypto.
Totalement.
Totalement.
C'est une espèce d'invention où il a mis lui-même ses propres idées sur le poids de l'écologie et des choses comme ça, ce qui est intéressant, mais qui est complètement déphasé par rapport au monde maya.
Le meilleur moyen d'appréhender cette civilisation maya, c'est de se rendre sur place, évidemment, visiter ces sites avec notamment ces fameuses pyramides, etc. Tout ça est très spectaculaire, bien entendu. C'est une civilisation qui a une personnalité, je ne sais pas comment dire, un style particulièrement fort et marquant. Je pense qu'on est imprégné quand on a vu ça. Moi, j'ai jamais eu cette chance, mais on doit être imprégné à vie. Ceux qui n'ont pas la chance de pouvoir aller jusqu'en Amérique centrale peuvent toujours se rendre au musée du Quai Branly, où une grande exposition, révélation d'un temps sans fin, c'est intéressant d'ailleurs cette thématique, Maya, tout simplement, au pluriel, a lieu jusqu'au mois de février prochain. Qu'est-ce qu'on voit dans cette exposition ?
Écoutez, c'est une réunion d'objets absolument exceptionnelle. Le Mexique a prêté à la France, donc, avait monté pour Mexico une première exposition et nous a envoyé un groupe d'objets remarquables par la diversité, par la qualité de ce qui est présenté et d'une certaine façon...
Par la force esthétique aussi.
Oui, force esthétique, bien sûr. Et par, finalement, la variabilité, la variété des thèmes qui sont traités. La commissaire de l'exposition, Mercedes de la Garza, a souhaité donner une image assez générale du monde maya. Donc elle a divisé son propos en autant de sections que ce qu'on pouvait imaginer à peu près. Et on démarre depuis les relations de l'homme et de la nature, en passant par l'organisation sociale, les élites, les forces sacrées, la relation au temps, aux astres, pour terminer sur les rituels, et en particulier les rituels funéraires. La dernière salle est consacrée aux rituels funéraires. C'est donc une espèce de panorama assez général du monde maya, plutôt du monde classique. Il y a quelques pièces post-classiques, d'ailleurs tout à fait spectaculaires, mais il y a un accent qui est vraiment mis sur la période d'apogée.
Le cri muet de ces monuments mayas se trouve donc au musée du Quai Branly. On peut visiter cette exposition maya. Merci beaucoup Dominique Michelet. Vous retournez là-bas bientôt ?
Très prochainement.
Bon voyage.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Quentin. Il nous l'a posée via la page Facebook de l'émission. Je cite Quentin. J'habite à Bruxelles et ma culture belge a des lacunes sur l'histoire de France et notamment sur les changements de république. Comment est-on passé d'une république à une autre ?
Oui, répondre à cette question, vous savez, c'est un peu, par définition, refaire l'histoire contemporaine de la France. Alors, moi, je vous propose de le faire comme ça, très vite, à grands pas, bien entendu. La première, la toute première République, elle naît au moment de l'effondrement de la monarchie, non pas comme certains le pensent en 1789, mais en 1792. Elle est proclamée le 21 septembre 1792 et elle va prendre, cette première République, un certain nombre de formes. Il va y avoir essentiellement trois formes de gouvernement. D'abord, la Convention, avec avant, pendant et après la Terreur, hein, cette Convention qui débouchera en 1795 sur le Directoire. Le Directoire se prolonge jusqu'au coup d'État de Napoléon Bonaparte qui, en 1799, établit le Consulat. Et vous savez que cette Première République, eh bien, elle sera abolie par Napoléon, puisque Napoléon va se faire proclamer empereur en 1804. Alors là, mai 1804, c'est la fin de la Première République et le début de l'Empire. Alors après Napoléon, ce sont les frères de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X qui vont remonter sur le trône. Puis, à la faveur de la Révolution de 1830, leur cousin, Louis-Philippe d'Orléans, qui va devenir le roi Louis-Philippe Ier. Et il faut attendre encore la Révolution de février 1848 pour que s'installe la Deuxième République. Une Deuxième République dont le président de la République, élu en décembre 1848, sera Louis-Napoléon Bonaparte. Ce Louis-Napoléon Bonaparte, c'est le neveu du grand Napoléon Ier. Eh bien, lui-même, en décembre 1851, va faire un coup d'État qui aboutira le 2 décembre 1852 à la proclamation du Second Empire. C'est-à-dire que la Première République avait débouché sur le Premier Empire, eh bien la Deuxième République va déboucher sur le Second Empire. La République, elle ne s'installe donc définitivement en France qu'après l'effondrement du Second Empire à Sedan le 4 septembre 1870. Alors là, c'est évidemment un nouveau régime qui s'installe. Au départ, il n'est pas tellement républicain d'ailleurs ce régime. Il va falloir attendre 5 ans et l'amendement Vallon en 1875 pour que définitivement on soit bel et bien sûr d'être en République. Long régime, cette Troisième République, puisqu'elle va durer 70 ans. Elle ne disparaîtra dans des conditions lamentables qu'avec le vote des pleins pouvoirs au maréchal Pétain en 1940. Et puis après donc, il y a le gouvernement provisoire du général de Gaulle. Il faut attendre 1946 pour que soit proclamée la Quatrième République qui subira évidemment les contre-coups de la décolonisation. En 1958, c'est la crise en Algérie, c'est le retour du général de Gaulle et le général de Gaulle va créer son propre régime, si je puis dire. C'est la Cinquième République au sein de laquelle nous vivons toujours. Voilà le résumé et la réponse à cette question un peu vaste, évidemment.